Maintenant, dans la deuxième partie, le sujet, c'est la réjection de toute responsabilité nuisible. On parlait au premier niveau, on parlait de la manipulation de la pensée par les forces astrales, la tendance à croire et tout ce qui en découle. Une des grandes problématiques de l'individu, c'est les sentiments de culpabilité qu'il peut vivre, soit avec les autres ou dans ses implications, soit professionnelles ou sociales ou sentimentales. L'individu est facilement responsabilisé par son environnement. Est-ce qu'une des principales manifestations de l'astral sur l'être, par le biais des entités ou des égrégores, est-ce que ce n'est pas le sentiment de culpabilité, les responsabilités, évidemment, que les individus s'installent ou s'imposent personnellement?
Oui. La culpabilité, c'est très grave parce que ça décentre l'être, ça décentre l'homme. Puis, la culpabilité, c'est une réaction émotive à un état de conscience qui enlève à l'homme la certitude de son individualité. Puis, c'est probablement un des outils les plus puissants utilisés par l'astral contre l'être humain. Puis, la culpabilité, l'homme la vit au niveau individuel, il la vit aussi au niveau collectif, mais elle est toujours réfléchie individuellement. C'est très grave, la culpabilité. Pendant l'évolution, les systèmes politiques, les systèmes idéologiques, les idéologies de différentes sortes, religieuses ou politiques, temporelles, ont utilisé la culpabilité contre l'homme. Puis, c'est une forme d'esclavage, c'est... un homme qui perpétue en lui ce phénomène-là ne peut pas en arriver éventuellement à développer de la centricité, c'est-à-dire une capacité de mettre le doigt sur le pivot de son être. C'est très grave, la culpabilité. C'est du poison.
Est-ce que c'est lié au sens des valeurs de l'être?
C'est lié au sens des valeurs de l'être, et c'est mis en mouvement, justement, par le sens des valeurs de l'être. Mais les valeurs font... Les valeurs, si elles ne sont pas réelles, automatiquement, même si l'homme sent de la culpabilité par rapport à elles, ces valeurs-là deviennent totalement inutiles, mais même deviennent nuisibles. Une valeur, techniquement, même si elle est involutive, faut qu'elle serve l'individu. Si elle ne sert pas l'individu, autrement dit, si elle le rend coupable, à ce moment-là, elle empoisonne sa vie.
Est-ce qu'une valeur est bonne? Est-ce qu'elle est bonne valeur? Bonne dans le sens réellement fonctionnel. Est-ce que donner à quelque chose, à quelqu'un, à un principe quelconque, une valeur, est-ce que c'est bon ou ça peut être pas bon plus tard? Est-ce qu'il y a des situations où le thème avoir un sens des valeurs, c'est valable?
Une valeur, c'est polarisable. Il y a des moments dans la vie où les valeurs sont bonnes, il y a des moments dans la vie où les mêmes valeurs sont nuisibles. Pour comprendre le phénomène de la valeur, il faut comprendre le phénomène du triangle. Une valeur, c'est polarisable. Donc, une valeur peut être positive dans certains cas, elle peut être négative dans d'autres cas, et ça prend le troisième apex du triangle pour pouvoir réellement savoir si elle l'est ou si elle l'est pas. Un homme qui n'a pas de conscience mentale suffisamment développée ou qui n'a pas suffisamment d'intelligence, qui n'a pas suffisamment de lumière, peut prendre une valeur qui en apparence est bonne, mais en réalité est mauvaise, ou une valeur qui en apparence est mauvaise, mais en réalité est bonne. Donc, c'est très polarisable, la valeur.
Donc, de la valeur, c'est jamais mental, c'est toujours astral.
La valeur, c'est toujours astral, c'est toujours polarisé, et ça demande que l'homme puisse faire la synthèse. Ça demande que l'homme puisse l'utiliser de façon intelligente. Et utiliser une valeur de façon intelligente, ça veut dire ultimement l'utiliser objectivement, avec un minimum d'émotivité, donc de subjectivité. À ce moment-là, la valeur devient utile. Okay. Elle devient créative.
Donc, à ce moment-là, on parle ni de bonne ou de mauvaise valeur, mais on parle de valeur fonctionnelle.
Ouais. C'est intelligent. C'est intelligent de faire une seule chose.
OK. Est-ce que le sentiment de culpabilité lorsqu'il se raccroche à une valeur, est-ce qu'il est inévitable que cette valeur-là ait été polarisée pour se sentir coupable? Est-ce que c'est le fait de la polarisation de la valeur qui fait que l'être est coupable?
L'être est coupable parce que sans s'en rendre compte, il est manipulé sur le plan mental.
Mm-hmm.
Par des égrégores ou par des entités. Et s'il est manipulé, ce qui veut dire qu'il n'y a pas suffisamment de lumière pour voir à travers la polarité de la valeur, à ce moment-là, il se fait avoir. C'est ça, la culpabilité. Et un être qui vit la culpabilité, automatiquement, subit son inconscience. Automatiquement, il vit un certain aspect de lui-même qui est faible. Il y a toujours de la faiblesse dans de la culpabilité. Il y a toujours de la faiblesse. Donc, il n'y a jamais de force dans de la culpabilité. Il y a toujours de la faiblesse. Mais on peut facilement ramener cette faiblesse-là à une force. Lui donner une valeur positive. Lorsqu'en fait, c'est une valeur négative. C'est important de comprendre qu'il y a toujours de la faiblesse dans de la culpabilité.
Est-ce qu'on est coupable dans la vie parce qu'on se sent trop responsable ou qu'on ne se sent pas assez responsable?
On est coupable parce que on n'a pas la science ou la conscience ou l'intelligence de ne pas l'être.
Responsable.
Responsabilité, c'est simplement une forme de comportement qui permet à un individu d'établir une base progressive dans le développement des valeurs. Un individu, moi je suis certainement un être responsable, si je regarde ma famille et ainsi de suite, bon, je suis responsable dans le sens que j'établis une base progressive dans ce qu'on appelle le monde des valeurs. Si je prends ma fille, par exemple, je suis responsable par rapport à ma fille, je suis responsable par rapport à ma femme, je suis responsable par rapport à ma famille. Mais j'établis la base progressive des valeurs, comme donner à ma fille une bonne éducation, ainsi de suite, en fonction de ce qu'elle, elle, en tant qu'individu intelligent, est capable de se rendre compte de l'aspect utile de ces valeurs-là. Si elle n'est pas assez intelligente pour se rendre compte de ces aspects utiles, de ces valeurs-là, à ce moment-là, je ne vais pas perdre mon temps, puis je ne vais pas vivre de culpabilité par rapport à ma fille. Si elle me dit un jour, ben là, je m'en vais, là, je veux rien savoir de ça, je veux rien savoir de l'école.
Mm-hmm.
Là, ça sera son expérience. Moi, je ne vivrai pas de culpabilité.
Pourtant, je vais avoir progressé dans les valeurs.
Je vais avoir établi une base progressive de valeurs. C'est ça, de la responsabilité.
OK.
Dans la mesure où il y a quelque chose en retour, autrement dit, oublie tes livres puis étudie. Donne-toi une formation, donne-toi une fondation psychologique pour que tu aies plus tard un rendement plus facile dans la vie, et ainsi de suite. Mais c'est dans ses mains. Si elle n'était pas suffisamment évoluée ou sensible à cette progression de valeur-là, si elle ne pouvait pas voir progressivement qu'effectivement ça lui donne quelque chose de plus, puis de plus, puis de plus en tant qu'être, ben à ce moment-là, ben, ça sera son problème, et moi je me couperai d'elle et je ne subirai pas de culpabilité.
Bon. Dans votre expérience, ce qu'on remarque, c'est que vous êtes satisfait d'être responsable. Vous n'êtes pas obligé d'être responsable.
J'aime créer des valeurs progressives. Donc, la responsabilité, ce que vous appelez la responsabilité, c'est simplement l'apport psychologique de ces valeurs créatives-là.
Parce que vous n'êtes pas responsable parce que vous êtes responsable.
Non,
mais
je suis pas responsable.
Ce que vous faites, ça donne l'impression d'être responsable.
Ça fait partie d'être ce que vous appelez, vous autres, responsable.
Mais vous ne cherchez pas à être responsable.
Je ne cherche pas à me donner le fardeau de la responsabilité. Je cherche à créer une progression de valeur.
Ça fait partie de votre créativité.
Ça, c'est ce que vous appelez, vous autres, la responsabilité. Puis ça fait partie de ma créativité.
OK. Votre créativité engendre comme conséquence
ça.
Une responsabilité.
Ça fait partie. Le phénomène de responsabilité, c'est connexe.
C'est conséquent.
C'est conséquent, connexe au phénomène de la création progressive de valeur.
Bon, ça part de vous.
Sans ça, la responsabilité devient subjective. Et si je vivais de la responsabilité subjective par rapport à ma fille, je me plains du sang de cochon. Je m'en fais pas de sang de cochon. Je crée des progressions de base, de valeur utile pour elle. Ça, c'est être responsable. C'est-à-dire, ça, c'est être créatif. Le problème avec le terme responsabilité, c'est qu'on lui a donné une valeur subjective, émotive au cours de l'évolution, de sorte qu'on n'est plus capable de s'en sortir mentalement, parce qu'on n'a pas les outils psychologiques ou psychiques suffisamment développés pour se délier des conséquences chez ceux qui ne sont pas capables de fonctionner par rapport à cette progression de valeur-là.
Mm-hmm.
Il y a beaucoup de parents qui vont dire, ah ben moi j'ai tout fait pour mes enfants, je leur ai tout donné, puis qu'est-ce qui s'est produit? Puis ils se culpabilisent.
C'est ça.
Ils ont fait de leur mieux, qui était souvent de leur pire, puis ils se culpabilisent. Fait que c'est très grave ça. C'est comme les parents qui vont dire, bon ben, hey, tu vas pas me montrer à faire des enfants. Dans ce temps-là, je dis, bon ben, ma chatte enfant aussi, les enfants. Faire des enfants, il n'y a rien là. C'est pas parce que tu fais des enfants que tu es un père. C'est pas parce que tu fais des enfants que tu es une mère. Tu es un père et tu es une mère quand tu élèves des enfants.
C'est vrai. Est-ce que c'est possible de voir que les gens qui n'ont pas d'identité ou qui n'ont pas de centre de gravité se cherchent des responsabilités pour se donner de la valeur?
Il y a beaucoup de gens qui cherchent des responsabilités pour se donner de la valeur, puis ça c'est très grave parce que ces gens-là éventuellement vivent des burn-out psychologiques.
Est-ce que la source de la...
D'ailleurs, se chercher des responsabilités, c'est équivalent à se mettre dans le trou, à se creuser son propre trou. Quelqu'un qui cherche des responsabilités, il se crée un trou. Quelqu'un qui crée une base progressive de valeurs utiles, automatiquement, il est responsable.
Mm-hmm.
Donc, faut faire bien attention au thème. Faut donner toute une conférence sur le mot responsabilité, le concept de responsabilité. Un homme, par exemple, qui est en société, qui travaille dans une industrie, une grosse compagnie, un gros système, ainsi de suite, et qui se sent toujours responsable, éventuellement, il vient burn-out.
Mm-hmm.
Donc, le problème avec la responsabilité, qui fait partie du transfert sur soi, souvent de fardeaux ou d'énergie qui viennent d'ailleurs, c'est qu'éventuellement ça brûle l'homme.
Est-ce qu'une personne peut se laisser imposer une responsabilité s'il est conscient?
Une personne qui se laisse imposer une responsabilité devient viole son identité.
On lui viole son identité.
Ben oui, il se laisse violer dans son identité.
Donc, quand on se fait coller un titre, ou on se fait coller une graduation, ou une... comment qu'il appelle ça? Un salaire, là, puis...
Une augmentation
de salaire, ces choses-là, puis que ça augmente notre charge de responsabilité.
Il faut être assez intelligent pour savoir si on est capable de la prendre, cette charge-là.
Ouais, puis parce que souvent si on refuse la responsabilité, on se fait juger, on se fait culpabiliser.
Très juste.
Ok. Donc dans notre société, tout marche à l'envers, de façon de parler.
Mais c'est parce que dans notre société, tout est basé sur la compétition puis la compétence. Moi, j'ai déjà travaillé pour un juif quand j'étais jeune, puis j'étais bon travailleur, puis les affaires grandissaient. Puis un jour, il est venu me voir, puis il vient me transférer quelque part à Toronto. J'ai dit, non, oui. J'ai dit, moi, je travaille ici, je viens ici, puis ça s'arrête là. J'ai perdu le salaire, mais je n'étais pas intéressé, j'étais bien là. J'ai jamais pu me déloger. Il était très, très obfusqué. Puis il a même dit à des gens en arrière, dans le warehouse en arrière, il a même dit à des gens que j'étais paresseux. Puis j'étais allé le voir, puis j'ai dit, tu me donnes des excuses. Si tu t'excuses pas devant tout le monde, je crisse la job là. Le juif s'est excusé.
Il avait reconnu votre valeur.
Il avait reconnu ma valeur parce que il y avait un rendement dans la boîte.
Ouais.
Par contre, je pouvais pas me laisser aller à me faire donner une responsabilité que je voulais pas. Je la voulais pas, la responsabilité. Si je l'avais voulu, je l'aurais bien rempli. Mais je la voulais pas, puis j'avais tout ça de raison de pas vouloir.
Mm-hmm.
Fait que c'est comme ça.
Bon, vous aviez déjà un excellent centre de gravité jeune. Les êtres qui sont exposés à des conditions de survie matérielles et qui se voient dans la même situation, techniquement, ils vont se laisser décentrer, ils vont se laisser déséquilibrer pour le plaisir de la job, ou pour le plaisir d'une façon de parler, mais pour demeurer dans la structure dans laquelle ils fonctionnent par question de sécurité. Est-ce que l'effet de culpabilisation qui vient de dire ben, « je peux pas refuser » ou ces choses-là, est-ce que ça se neutralise en posant des actes concrets qui peuvent être extrêmement violents pour nos finances ou pour, dans certains cas, pour nos relations humaines. Pour rester dans son centre. Parce que c'est intelligent de mettre un terme à un sentiment de culpabilité en posant des actes extrêmement radicaux. Qui ont des conséquences, des fois, très grandes. Vous auriez pu perdre votre emploi, mais si une personne, exemple, est père ou mère de famille avec deux, trois enfants à faire vivre, est-ce que c'est intelligent pour ne pas se sentir coupable de se laisser entraîner dans un courant? Est-ce que c'est intelligent de mettre un arrêt? Parce que les gens sont obligés de traiter avec cette problématique-là.
Quelle que soit notre expérience sur le plan matériel, notre expérience est toujours en fonction d'une certaine programmation. Donc, il y a des êtres sur la Terre, vous êtes conscient, mais il y a des êtres sur la Terre qui ont suffisamment de mesures de soi pour avoir une présence d'eux-mêmes. Ces êtres-là sont capables de prendre des décisions, comme vous dites. Il y a d'autres êtres qui ne sont pas capables. Ça dépend des individus, ça dépend de la programmation, ça dépend de la mémoire, ça dépend de la formation, ça dépend du conditionnement, papapapapapa. Si vous prenez un être qui n'a pas ça, et que vous lui parlez de ce qu'on parle, de prendre des décisions, ben dit, là, à ce moment-là, ils vont faire des erreurs parce qu'ils ne sont pas capables de supporter leur énergie. Fait qu'à ce moment-là, mais ça fait partie de leur expérience de vie. Tandis qu'un être qui est capable de supporter, j'étais pas conscient, moi, quand j'ai vécu ça dans le temps, mais j'avais suffisamment d'identité inconsciente pour pouvoir supporter ma décision. Fait que si bonhomme, le juif m'avait dit, bon, mais ok, tu perds ta job, je me serais trouvé un autre job, parce que je me trouvais toujours des jobs. Mm-hmm. Fait que je n'avais pas cette insécurité-là. Ben, ça fait partie de mon caractère, ça faisait partie de ma nature, ça faisait partie de ma programmation, et ainsi de suite. Mais si un homme n'a pas ça, n'a pas cette sorte de demi-centricité-là, ou cette sorte de
conscience de soi.
De conscience de valeur de lui-même à ce niveau-là. À ce moment-là, mais c'est difficile. Puis si vous lui imposez une action radicale comme vous parlez, à ce moment-là, il va faire quelque chose, mais qui fait pas partie de lui. Donc, à ce moment-là, il va se mettre encore plus dans le trou.
Okay.
C'est pour ça que c'est très dangereux de donner des conseils à des individus. Quand vous donnez des conseils à quelqu'un, vous lui donnez un conseil par rapport à vous-même. Puis donner un conseil par rapport à vous-même, c'est pas évident pour un autre.
Mm-hmm. Parce qu'il dispose pas de notre vibration.
Parce qu'il dispose pas de la même vibration que vous avez. Vous pouvez faire quelque chose dans ce cas-là que lui peut pas faire. C'est très dangereux des conseils. Fait que quelqu'un qui donne des conseils, il faut qu'il soit réellement lucide, il faut qu'il prenne réellement en conscience la compétence et l'incompétence de l'autre, il faut qu'il y ait une mesure de l'autre, il faut qu'il y ait des paramètres, il faut qu'il soit capable de mesurer l'autre. Sans ça, il va mettre l'autre dans le trou avec des bonnes intentions. C'est très dangereux de donner des conseils. Il faut réellement savoir jusqu'où on peut aller quand on donne des conseils.
Maintenant, est-ce qu'on serait capable de dire que lorsqu'on se fait imposer une responsabilité, on est sur la voie d'une initiation?
Quand on se laisse imposer une responsabilité, on est sur la voie de l'expérience, dont on n'est pas conscient, là, qui est conséquente à cette prise de décision-là, de rentrer dans un champ d'expertise nouvel et nouveau, là, féminin, masculin, expertise, je ne sais pas, l'expertise nouvelle. Puis, ça fait partie de l'expérience de l'âme, ça fait partie de l'expérience de l'être.
OK, vous, avec votre juif, là, vous vouliez prendre les responsabilités qui faisaient votre affaire.
C'est parce que dans ce temps-là, avec le juif, ouais, c'est vrai qu'avec le juif, j'étais déjà, c'est après ma fusion, ça. Si le juif m'avait approché avant ma fusion, j'aurais probablement agi semblable parce que j'avais quand même cette lumière-là, même si j'étais pas conscient de tout l'aspect occulte de ma conscience, j'étais quand même, je la vibrais cette conscience-là.
Mm-hmm.
Donc ça faisait partie de ma nature.
D'une façon générale, un être conscient, c'est lui qui choisit ses responsabilités.
Un être conscient choisit de vivre le minimum de responsabilité dans le sens évolutif du terme, et il est capable de vivre le maximum de responsabilité dans le sens créatif du terme, dans ce sens qu'il est capable de développer des bases génératives, des bases grandissantes de valeur.
Bon. Pourriez-vous nous parler de cette aptitude chez l'être conscient, comme vous dites, à construire des bases génératives de valeur? Qu'est-ce qu'il faut comme conscience comme ingrédient pour bâtir ça.
Ça fait partie de sa créativité. Ça fait partie de remplir constamment le vide que crée sa conscience par rapport à la forme. Quand t'es conscient du plan mental, t'es mis en vibration. Puis quand t'es mis en vibration, tu deviens très créatif parce que t'as plus les obstacles psychologiques de ta programmation. Fait que c'est facile pour l'être de faire ceci, puis de faire ceci, puis ceci, puis ceci. Donc, mais avec le temps, il arrive à contrôler ça. Un être conscient est obligé de contrôler sa créativité. Sans ça, là, sa créativité va le mettre à terre, puis ça va devenir une initiation. Tu peux pas être créatif à gauche et à droite. Faut que t'en contrôles, cette énergie-là. Parce que, pour un être évolutif, être créatif, c'est bien le fun. Bon, je suis créatif, ok. Mais pour un être conscient, être créatif, c'est une autre paire de manches. Ton canal est ouvert, tu vois des possibilités partout, puis le rôle que t'as à jouer par rapport à cette descente d'énergie-là, c'est de la contrôler. Quand t'as contrôle, à ce moment-là, mais tu crées des bases, tu génères des bases créatives de valeur, puis à ce moment-là, ça va très loin, ça. Ça n'a pas de fin. Tu peux être créatif jusqu'à la fin de tes jours. Mais c'est conditionnel à ta capacité de contrôler ton énergie. Tandis que l'être qui est inconscient, lui, il n'a pas à contrôler son énergie parce que il n'en est pas conscient. C'est l'énergie qui le contrôle. Ça, c'est son expérience et sa programmation. Fait qu'il s'en va en business, puis il fait faillite. Puis il recommence un autre business, puis il fait faillite. Mais il n'est pas conscient des plans, lui, quand il fait faillite. Parce que quand t'es conscient, tu fais faillite, t'es conscient des plans. Fait que c'est plus la même game, là. Fait qu'éventuellement, t'es tanné de tomber en faillite quand t'es conscient des plans. Fait que là, tu contrôles l'énergie, puis tu contrôles l'énergie, puis tu contrôles l'énergie. Fait qu'un être conscient a tendance, avec le temps, à mesurer sa responsabilité. Il va remplir au bout, mais elle est totalement mesurée. Tandis qu'un être conscient, lui, a subi sa responsabilité. C'est la différence.
On mesure ça comment quand on est conscient, une responsabilité?
Ta mesure dans ce sens que tu ne permets aucunement qu'elle te crée de la souffrance. Qu'elle débalance tes corps, qu'elle débalance ton énergie. Ça, c'est... Quand t'es rendu là, t'es conscient. Quand t'es rendu là, t'as le contrôle sur ta vie, t'as le contrôle sur ta destinée. Tu peux voir ce que tu vas faire dans 10 ans, tu peux voir ce que ça va mener, ça, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais ça fait partie du contrôle sur sa vie. Sinon, on l'a subi, la responsabilité.
Contrôler ses vies à ce moment-là, si on tient compte du fait que les plans dites lumière nous mettent toujours en vibration, c'est quasiment infini la capacité de vous mettre en vibration.
Infini.
Bon. Qu'est-ce que vous pouvez contrôler réellement, étant donné que ça vient pas de vous? Ça passe par vous, mais c'est comme des éléments tellement intangibles par rapport à notre plan matériel. Là. Qu'est-ce qu'on contrôle en réalité?
Les plans vous mettent en vibration toujours en fonction de vos avoirs, autrement dit, en fonction de votre énergie. Fait qu'un homme qui aurait du talent, par exemple, dans la menuiserie, mais le plan mental pourrait le mettre en vibration par rapport à la menuiserie, par rapport à la plomberie, par rapport à la médecine, whatever.
OK, où est-ce qu'il y a le contrôle?
Le contrôle, bon. Fait que supposons que le plan mental le met en vibration par rapport à la menuiserie, puis il veut devenir un grand menuisier, puis il veut faire de la menuiserie un petit peu comme Antonio Gaudi, puis il veut... Ben à ce moment-là, il va vivre des illusions, puis un jour, ben il va sa menuiserie, elle va changer, elle va devenir plus pragmatique. Ça va être de la menuiserie qu'il va pouvoir vendre au marché. Il va sortir un petit peu de l'illusion d'être un grand artiste de la menuiserie pour simplement tourner le bois, là, comme si c'était une plante végétale. Fait qu'il va commencer à faire des tapes plus droites, avec peut-être des petits cercles dedans. Il va être plus pragmatique, il va être plus assis dans son assiette. Tandis qu'au début, il va vouloir développer une sorte d'artisterie godesque. Puis là, il va se faire plante parce qu'il n'est pas gaudi, c'est pas son plan de vie.
Mm-hmm. Si je comprends bien, les plants peuvent vouloir nous tester, ni plus ni moins, à sortir.
C'est là que les plans nous testent. Puis le problème, c'est que quand t'es conscient des plans, les plans, ils te mettent toujours une grosse forme. Puis après ça, au bout des années, t'es obligé de réduire, puis de réduire, puis de réduire. Puis finalement, elle arrive à un certain niveau, puis t'es bien là. Mais ils partent avec une grosse forme. C'est comme ça qu'ils te mettent en vibration. Parce que quand t'es conscient des plans, c'est comme si t'as pas de limite, t'en vois pas de limite. Fait que la vie va t'en mettre des limites. Fait qu'ils vont t'en mettre tellement dans la tête de la créativité, là.
Puis tu peux
tu vas faire des belles formes, là. Tu vas voir les banques, puis ils ne vendront pas sous gravé de teint. Un jour, tu vas faire le faux cul, tu vas faire des formes droites, avec un petit rond dedans, puis là, ça va se vendre. Tu vas avoir compris que c'est ça qu'il faut que tu fasses.
Puis ça, c'est
où ça, ça va éliminer ton illusion de la créativité.
OK, OK. Parce que ce que vous dites, c'est que ni plus ni moins, quand on commence dans la conscience, on a une vision de la créativité.
Quand on commence dans la conscience, on veut-tu être des Michel-Ange? On veut-tu être des grands artistes, des grands plombiers, des grands menuisiers, des grands médecins? Puis, avec le temps, mais on s'aperçoit que être ci ou être ça, quand t'es conscient, c'est simplement utile dans la mesure où ça te fait manger.
Ouais.
Tandis que si ça te fait pas manger puis ça te fait péter beaucoup de brou dans ta tête, éventuellement ils vont t'avoir. Ça peut prendre 10 ans. Ils peuvent te mettre en 3-4 faillites. Un jour tu vas comprendre.
Okay.
Il y en a, ça leur prend une faillite, tu comprends. Il y en a, ça leur prend 20 faillites, tu comprends. Mais un jour tu comprends.
Si je comprends bien.
La créativité, c'est d'éliminer la survie. Ça c'est intéressant. L'intelligence, c'est d'éliminer la survie. La créativité, c'est de te mettre dans la merde.
Mais tout à l'heure, vous avez dit que vous créez des bases génératives de valeur qui se font
partie de votre créativité. Oui, ça fait partie de la créativité, mais c'est sous contrôle de mon intelligence.
Donc,
autrement dit, ma créativité, elle est contrôlée par mon intelligence.
Alors que pour les
c'est pas ma créativité qui contrôle mon intelligence. C'est mon intelligence qui contrôle ma créativité.
Subtile nuance.
Très importante, Yvan.
C'est bien après 12 ans qu'on le sache.
Oui, c'est important de savoir.
Parce que pour beaucoup de gens, être conscient, c'est aboutir concrètement dans le fait d'être créatif.
Conscient, ça t'amène à être créatif, mais être conscient, ça implique d'être intelligent dans le mouvement de la forme. La créativité, c'est le mouvement de l'intelligence dans la forme.
Ouais.
Si tu n'as pas l'intelligence, tu ne comprends pas les lois du mouvement dans la forme, tu deviens prisonnier de la créativité et tu crèves de faim.
OK. Fait que être conscient, ça ne veut pas dire que tu es intelligent. Tandis que quand tu es intelligent, ça veut dire que tu es déjà été conscient.
Être conscient, c'est un état évolutif, progressif vers l'intelligence. Quand tu es intelligent. Point final. Tu parles plus d'être conscient quand t'es intelligent. Parce que tu connais les lois de la vie, ainsi de suite. Donc, être conscient, c'est comme, c'est le mouvement de ton énergie mentale vers un apex que j'appelle l'intelligence créatrice. Cette intelligence créatrice-là, pour être réellement utile à l'homme, faut qu'elle soit partagée entre ses besoins réels dans la matière et sa conscience des plans invisibles qui cherchent toujours à le mettre dans la merde. Un homme qui comprend pas que la vie est anti-homme, un homme qui comprend pas que les forces vitales à tous les niveaux, astral, mental, un homme qui ne comprend pas que l'invisible est anti-homme, travaille contre lui, jusqu'à ce que lui travaille pour lui-même, ne comprend rien de l'invisible. Parce que quand il y a beaucoup plus d'énergie dans le monde, les mondes invisibles, que dans le monde matériel. Autrement dit, l'univers invisible est beaucoup plus vaste que l'univers matériel. Donc, tout est là-dedans. Quand ça passe à travers l'homme, à travers le canal de l'homme, cette énergie immense-là, faut que l'homme apprenne à travailler avec. Faut qu'il apprenne à la contrôler. Quand il apprend à la contrôler, il est intelligent. Automatiquement, il est créatif, mais sa créativité est sous le régime de son intelligence. Mais quand ça commence, là, c'est la créativité. Là, on veut être créatif. Mais pourquoi est-ce qu'on veut être créatif? On veut être créatif parce qu'on veut avoir une identité.
Mm-hmm.
Tu peux pas dire... Une personne ne va pas dire, bon ben, moi, je vais être intelligent pour avoir une identité. Une personne va dire, moi, je vais être créatif pour avoir une identité. C'est à travers la créativité que vous découvrez votre identité. Mais c'est à travers votre intelligence que vous mesurez votre créativité pour pas souffrir dans l'illusion de votre identité.
L'illusion de notre identité.
Ouais.
Pourquoi vous êtes l'illusion de notre identité?
L'illusion de votre identité, c'est l'illusion qui vous permet, en tant qu'individu, en tant qu'entité incarnée, de participer à un mouvement créatif qui glorifie votre ego.
On peut avoir l'identité puis encore glorifier notre ego.
Si cette identité-là n'est pas perfectionnée, n'est pas parfaite, n'est pas transparente, oui.
Fait que même si on a de l'identité, on peut être encore sujet à se mettre dans la merde.
Oui, parce que avoir de l'identité, ça fait partie de la consolidation de votre lien avec l'invisible. C'est la consolidation du lien. C'est la descente de l'invisible en matière. C'est le contrôle. L'homme doit contrôler l'invisible et non pas l'invisible le contrôler. Puis ça, ça fait partie de l'évolution de la conscience mentale supérieure. Fait que quand cette énergie-là commence à descendre dans l'homme, puis qu'elle pète ses bretelles, ben automatiquement, il va être créatif. Puis il va être créatif, puis vite, puis vite, puis vite, puis vite, puis vite. Fait qu'ils font vibrer jusqu'à temps qu'ils vibrent un petit peu moins, puis un petit peu moins, puis ils vibrent un jour, ils vibrent juste correct. Fait que là, il est pas intéressé à être créatif. Il l'est anyway. Fait que la période où on va être créatif,